C'était Zabriskie Point.
François Bégodeau, notre héros.
Comme il jouait bien de la musique, François Bégodeau va sauver l'éducation nationale. On est sûr, on est là pour ça, et sur Radio Pulsar. Et non, on est là pour ça, parfois, on commence l'émission avec une petite lecture.
Eh oui. De la difficulté qu'il y a à imaginer une cité idéale. Je n'aimerais pas vivre en Amérique, mais parfois, si. Je n'aimerais pas vivre à la Belle Étoile, mais parfois, si. J'aimerais bien vivre dans le cinquième, mais parfois, non. Je n'aimerais pas vivre dans un donjon, mais parfois, si. Je n'aimerais pas vivre d'expédient, mais parfois, si. J'aime bien vivre en France, mais parfois, non. J'aimerais bien vivre dans le Grand Nord, mais pas trop longtemps. Je n'aimerais pas vivre dans un hameau, mais parfois, si. Je n'aimerais pas vivre à Issoudun, mais parfois si. Je n'aimerais pas vivre dans une jonque, mais parfois si. Je n'aimerais pas vivre dans un xar, mais parfois si. J'aurais bien aimé aller sur la lune, mais c'est un peu tard. Je n'aimerais pas vivre dans un monastère, mais parfois si. Je n'aimerais pas vivre au Negresco, mais parfois si. Je n'aimerais pas vivre en Orient, mais parfois, si. J'aime bien vivre à Paris, mais parfois, non. Je n'aimerais pas vivre au Québec, mais parfois, si. Je n'aimerais pas vivre sur un récif, mais parfois, si. Je n'aimerais pas vivre dans un sous-marin, mais parfois, si. Je n'aimerais pas vivre dans une tour, mais parfois, si. Je n'aimerais pas vivre avec Ursula Andress, mais parfois, si. J'aimerais vivre vieux, mais parfois non. Je n'aimerais pas vivre dans un wigwam, mais parfois, si. J'aimerais bien vivre à Xanadu, mais même, pas pour toujours. Je n'aimerais pas vivre dans Lyon, mais parfois, si. Je n'aimerais pas que nous vivions tous à Zanzibar, mais parfois, si. Voilà, c'était de la difficulté qu'il y a à imaginer une cité idéale, tiré de Pensées classées de Georges Perec, avec à la guitare Emma.
I was born with eyes to see what you have to show. I was born with ears to hear what you have to say. But I really wanna know. It's why I couldn't ask with my mouth. I was born with feet, I walk all around this town. I was born with hands to push all the same block door. But what I really wanna know, it's why I feel so heavy on my back. No, I am to leave this, and no, it's making it worse, cause I know, and I don't know, I'm not to leave this, and no, it's making it worse, cause I know. I was born with a face to show what I'm thinking all the time, despite what my ma say and my body try to hide. But I'm no good of that, I can't pretend. I am what I am, and my nose keep me on my pants, and my chin try to stay above my collar. No matter how heavy my head, now I'm not to leave this, and now it making it worse, cause I know when I die. Now I've tried to make this, and now it's making it worse, cause now I know, and now I don't know.
On est fiers d'avoir une copine comme ça.
Le premier live de On est là pour
donc,
ça.
Donc cette année, comme vous avez pu le remarquer, j'ai appris à jouer avec deux doigts et trois cordes.
Pas mal. Voilà.
Pas mal.
Et alors qu'est-ce que c'était?
C'était un cover avec des paroles un peu à moi.
Un cover, c'est-à-dire quoi?
C'était un morceau de Ramona Cordova, voilà, qui s'appelle Heavy on My Head, et que je conseille. Enfin, je conseille son unique album à tout le monde.
Ah oui, je trouvais que ça avait des airs du Velvet Underground.
Ah, c'est
à certains moments.
Non, mais en fait, c'est un cover, quoi. J'ai fait à ma sauce. Hein.
Un cover, ça veut dire ça, c'est-à-dire que tu.
Bravo.
Voilà.
De rien. Oui. Réapproprier une musique.
Oui. Donc c'est reprise, quoi.
En anglais. Voilà.
En anglais, oui.
Waouh.
Waouh.
On est fiers de.
Et je suis désolée, j'étais pleine de tracks parce que j'avais jamais joué à la radio.
Très peu. C'était très beau.
Ah oui, ça s'est pas senti. Hein.
Merci beaucoup. Ça, c'est des copines.
Eh oui.
On fera plus souvent des émissions qu'avec des filles.
Voilà, et de la musique live. Bon, finalement,
la
Ben,
fois,
Anthony, Thomas, voilà,
il faut pas venir.
La prochaine fois, Isabelle et moi, d'ailleurs, ça va être long pour vous d'attendre l'été, mais on va chanter une chanson toutes les deux qui s'appelle ouais. Manque-moi moins.
Manque-moi moins.
Voilà.
Oh,
alors, ce sera la surprise.
La surprise de la rentrée. Bon, alors, si on parlait un petit peu de littérature après tout ça. En fait, moi, j'avais envie de faire une rubrique petit livre et je m'aperçois que les livres sont pas petits, mais c'est pas grave, c'est une rubrique thématique. Comme les vacances s'annoncent, bien, je me suis dit, contrairement à, comment dire, à l'idée reçue qu'on nous met dans tous les journaux en ce moment, que c'est les vacances, c'est relax, on pense à rien et on s'abrutit au soleil et on drague éventuellement. Moi, je trouve que c'est bien aussi les vacances pour réfléchir. Enfin, pas
comme tu y vas.
Bah non, mais je veux dire, juste, c'est pas que je. Ouais, non, mais quand même, c'est agréable de
toi. Rabat-joie.
Mais c'est pas du tout rabat-joie.
Trouble fête, je dirais même.
Oh,
fête.
Mais non. Oh, mais c'est pas ce que je voulais
mais
dire.
Nous,
bon,
on
bref.
A juste envie que de draguer, boire des coups.
Oui, mais voilà.
Sur la plage, tu vois.
Mais pareil, mais je m'interdis pas de lire des livres que j'aime bien. Et éventuellement des livres qui font réfléchir. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'emporter avec moi en vacances. Bon, c'est pas tout de suite, mais je les emporterai quand même. Plein de livres qui parlent du travail. Et parce que voilà, si c'est bien le moment de prendre un peu de recul, c'est quand on travaille pas, de regarder un petit peu ce mot dont on nous rabat les oreilles en ce moment, parce que il en manque, mais il faut quand même tous qu'on travaille plus. Donc joli paradoxe. Et c'est
il y
peut-être
aussi le pouvoir d'achat.
Oui, oui, non, mais ça, j'ai vraiment pas du tout envie d'y penser en vacances. Genre voilà, année de fauché, vacances de fauché, on va pas penser au pouvoir d'achat. Travail mode d'emploi, c'est un livre qui est paru aux éditions L'Altiplano de Géraldine Sivad. Et je ne sais pas pourquoi ce livre m'a bien plu. Il s'agit en fait d'un récit qui est écrit à la deuxième personne du pluriel, vous. Et alors que ça s'apparente fort à ma foi à une autobiographie, mais ça on s'en rend compte plutôt à la fin quand on lit les quelques notules sur l'auteur. Et il s'agit donc d'une succession d'expériences professionnelles en un temps assez court et entre plusieurs pays, à savoir la France, les États-Unis et l'Allemagne. Et bien voilà, on a des courts chapitres qui disent autant le parcours professionnel de l'auteur, on va dire, enfin on va l'assimiler à l'auteur, mais à la rigueur on s'en fiche. Caissière chez Prix Bas, les études, les hot dogs, la pâtisserie, cafétéria grand marché, agence de voyage version américaine, retour au bercail, la déconfiture, hôtesse de l'air, agence de voyage version allemande, les joies de l'intérim, l'intérim revu et corrigé. Entreprise de transport, Madame fait tout, etc., etc. Et donc c'est une succession, un petit peu une succession de déconfitures, enfin de récits centrés sur l'obtention d'un travail, cette espèce de quête, un petit peu comme la queue de Mickey quand elle est au manège, quoi. Vraiment, ça s'apparente à ça, parce que on sent que la narratrice fait tout avec ce vous de narration pour expliquer que oui, effectivement, tout le monde doit avoir un travail, donc il faut vraiment prendre un travail. Et ma foi, il faut en passer par des épreuves. Bah voilà, dans laquelle elle y met beaucoup de bonne volonté, hein, enfin des fois un peu moins à la fin, mais toujours avec cette espèce d'idéal qu'on nous inculque qu'il faut réussir sa vie, avoir un travail intéressant, si possible, mais au début elle ne pense même pas à un travail intéressant, elle pense à un travail tout court. Je vais vous en lire un tout petit extrait pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit, parce que je trouve ça assez jouissif comme écriture, tout ça. Je vais lire juste, histoire de bien mettre dans l'ambiance, pas du tout vacances, le petit paragraphe qui s'appelle « La déconfiture ». Vous voilà assise en face de votre futur employeur potentiel. Vous avez la bougeotte sur votre chaise et ne savez quelle position adopter. Les coudes sur la table, les mains sur les genoux, les mains croisées. Vous ne pipez mot, pensez à l'heure qu'il doit être, sans pour autant oser jeter un coup d'œil sur votre montre. Vous n'avez qu'un désir, c'est de sortir d'ici le plus vite possible. Vous écoutez néanmoins avec attention, dos de linet de la tête. La parole vous est donnée. Parlez-moi de votre sujet de maîtrise. Écrite sans grande conviction il y a plus de 2 ans. Blackout. Vous aviez écrit plus de 70 pages à l'époque, et là vous lui sortez 3 petites phrases minables en ayant l'impression de bafouer et d'écorcher chaque mot. Il semble s'en contenter et vous propose de revenir la semaine prochaine pour passer un petit test de personnalité. En guise de petit test de personnalité, vous vous retrouvez, la semaine suivante, à rédiger des lettres en langage commercial, qui plus est sur ordinateur. Vos connaissances informatiques en désespéreraient plus d'un, et, en ce moment même, vous la première. À l'agonie, vous essayez en vain de lancer des messages SOS à la fille qui se trouve dans le même bureau, mais le regard noir, en réalité bleu pisseux, qu'elle vous lance, ne vous engage pas à réitérer votre demande. Bref, vous faites donc la mise en page toute seule. Après avoir tenté désespérément d'imprimer, vous reconnaissez avec grand soulagement l'icône de l'imprimante en haut à gauche de l'écran. Opération réussie, au moins une. La lettre que vous étiez censée rédiger et envoyer à un client virtuel se révèle être un joyau d'abomination. Elle n'est ni centrée, ni même positionnée correctement. Elle ne comporte ni en tête, ni date. L'écriture est trop grosse. Le texte s'étale lamentablement sur 2 pages. Vous n'êtes pas bien fier de vous et votre futur employeur potentiel non plus. Vous n'avez pas eu la place. Vous n'y comptiez plus. Le cœur gros, vous méditez sur votre avenir professionnel, si toutefois vous en avez un. Sympa ?
Ah oui. Pour tous ceux qui passent une thèse, là...
Et qui pensent à leur futur avenir professionnel. Non, en fait, ce que j'aime bien dans ce petit livre, qui se lit vraiment très vite, un petit peu comme on pourrait lire aussi les chroniques d'un journal quotidien ou des choses dans l'air du temps, c'est qu'il y a un petit vent d'insoumission, d'insubordination par rapport à ce qu'on nous inculque et à cette sacro-sainte valeur travail. Parce que vraiment, l'auteur, elle médicien, quoi. On peut pas dire le contraire, elle arrête pas de se bouger. Et puis d'ailleurs, on réalise que la condition de chômeur actif, elle ne parle même pas des pressions de la NPE, d'autant plus qu'elle fait des passages en Allemagne et aux États-Unis où ça se passe pas tout à fait comme en France. Et où d'ailleurs, au passage, on apprend que les conditions sociales ne sont évidemment pas les mêmes, notamment pour les congés de maternité inexistants et autre chose pour les États-Unis. Enfin bref, on trouve que vraiment, elle est médicien et c'est vachement fatigant. Et en plus, c'est rarement l'éclate, quoi. Mais je sais pas, dans la petite distance qui commence à s'infiltrer vers la fin, il y a quelque chose d'assez réjouissant. C'est pas cynique, c'est finalement plein d'énergie malgré des déconvenues multiples. Et puis on se dit, ouais, ça vaut le coup d'être raconté ces expériences de chômeur et d'actif plutôt, parce qu'elle est plus souvent active que chômeur. Voilà, ça c'est Travail mode d'emploi, aucun livre que j'ai lu. C'est embêtant parce que je suis la seule à parler des livres de cette rubrique, parce que je suis la seule à les avoir. Ah non, pas celui-là. Valeur travail, identité nationale, qu'y a-t-il derrière ? Au crible, un livre que j'ai acheté parce que Emma en a parlé.
Mais je m'en souviens plus du tout.
De Philippe Goddard. Mais si, tu nous en as dit le plus grand bien. Bon, d'accord, tu t'en rappelles plus, là, on n'en parlera pas beaucoup. De toute façon, j'en ai lu que 12 pages, mais je trouve ça très intéressant. Le principe de cette collection de chez Syros, qui s'appelle Au crible, Syros, c'est de décrypter notamment des livres pour, deux points, décortiquer le programme politique de Nicolas S., comprendre et critiquer l'action du gouvernement, et débattre avec ses proches. À lire de 15 à 115 ans. Donc déjà, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Bon, il faut avoir envie de décortiquer le programme du gouvernement, ça ne fait jamais très plaisir à première vue. Mais on s'aperçoit que assez vite que c'est quand même utile de le savoir et de décortiquer aussi une façon de parler. Donc ma foi, j'ai commencé à réviser qu'est-ce qu'il y a derrière le travail, quand est-ce que c'est né, quand est-ce que... En gros, avec les agriculteurs, il y a quand même quelques milliers d'années de ça. Et puis quelle valeur on peut mettre dessous. Et puis aussi, le fait que la France serait l'un des pays qui travaillerait le moins dans le monde. Ben en fait, non. Voilà. Chiffre à l'appui, pas du tout. En général, il y a seulement la Grande-Bretagne qui est devant nous, mais quand on connaît les conditions sociales en Grande-Bretagne, bien, on peut se dire que, ma foi, on n'a peut-être pas tout perdu.
Je crois qu'ils travaillent actuellement sur, justement, toujours dans le même thème, sur la lettre aux enseignants qui a été envoyée. Je ne sais pas si tu l'as reçue.
Une enseignante parmi nous.
Oui. Les lettres aux enseignants, on en a pas mal dans l'année, alors ça dépend laquelle.
Hein. La lettre aux enseignants de Nicolas Sarkozy, tu l'as pas eu ?
Si, c'est la lettre aux enseignants au début de l'année, voilà. Du discours de Périgueux.
Oui.
C'est ça, oui.
Et qui très inspiré, en fait, s'est-il rendu compte par celle qu'avait fait Pétain, le maréchal Pétain en son temps. Donc il va partir de cette base-là.
Et bien. Voilà. Et par rapport au travail, justement, j'écoutais une émission l'autre jour qui parlait des 35 heures, donc, dont on sait qu'elles vont disparaître. Elles sont toujours là dans les textes, mais avec les amendements, il y a eu 5 amendements dessus, et donc ça ne veut plus dire grand-chose. Et on pourrait se dire que des 35 heures, on va passer aux 39. Eh bien non, apparemment, on retourne à 1841, c'est-à-dire...
841 heures.
C'est beaucoup trop. 1841 heures par semaine.
La retraite à 1841 ans. Oh non.
C'est-à-dire la durée légale hebdomadaire liée au contrat avec son employeur et non plus à une durée légale du travail.
Donc c'est-à-dire qu'on a complètement libéralisé le truc.
Complètement.
Est-ce que c'est pour s'aligner sur l'Europe ou il n'y a pas justement, je crois que les niveaux européens, on n'a pas réussi à
faire. La plupart des gens travaillent 12 heures par semaine. Donc.
La plupart des gens travaillent 12 heures par semaine.
Non, mais je veux dire, il y a vachement de gens aussi à temps partiel. Enfin, ça n'exclut pas. Ah oui. Je veux dire, c'est assez aberrant, quoi, la politique sur le temps de travail.
Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est
d'un côté tu libéralises et de l'autre côté t'as des gens qui travaillent pour 3 francs 6 sous avec des horaires de merde. Bref.
C'est un peu lié au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de travail, mais qu'on nous force à travailler beaucoup quand même.
Ouais.
C'est un peu bizarre. Bon, je sens que tout ça va encore m'encourager à lire Éco-Rêve, une super revue que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Et c'est, en fait, c'est pas le dernier numéro, c'est le numéro 28 de l'automne, c'est vous dire si je suis à la page. Novembre 2007, Repenser le travail avec André Gors. André Gors, dont on avait parlé, on est là pour ça, dans une de nos premières émissions, qu'on aimait beaucoup, et qui s'est donné la mort cette année avec sa femme, qui était atteinte d'une grave maladie, qui avait fait un très beau lettre à D. Effectivement, un peu comme un testament sur son histoire d'amour avant de mourir. Et André Gors n'a pas seulement écrit Lettre à D, il a écrit beaucoup de choses. C'était un sociologue, politologue, je ne sais pas comment on dit. Et il a écrit notamment son dernier texte, c'était sur le travail pour la revue Éco-Rêve. Et donc ce texte est publié en début de voilà, en début de la revue, et il repense effectivement le travail en disant, en prenant acte du fait que du travail il n'y en a pas pour tout le monde, que les progrès techniques ont fait qu'on peut travailler moins, et mais pourquoi diable n'arrive-t-on pas à travailler moins, et pourquoi nous dit-on toujours plus de chômage, non, il faut travailler plus, enfin, bref. Il analyse pas seulement le travail, il analyse aussi la crise du capitalisme avec notamment les nouvelles technologies, les progrès techniques et tout ce que ça change dans la balance. En gros, Marx est bien loin, mais André Gorz s'appuie quand même sur Marx. Donc ça fait des choses assez intéressantes.
On peut être marxiste sans être marxiste léniniste ou marxiste.
Oui, tout à fait.
C'est revenir à l'essence du marxisme qui, en fait, n'a été appliquée que 3 semaines
en
Russie, voilà. On mais était pour tout. Hein.
Je crois que Marx a continué à être lu après, même si moi, je ne l'ai pas lu.
Oui, non,
qui a lu Marx
dire, c'est qu'il a... Enfin, le marxisme n'a jamais été appliqué vraiment... Ça a toujours été récupéré et
détourné.
Voilà un truc à faire pour la rentrée.
Oui,
dans les devoirs.
Marx.
Appliquons Marx.
Oui, appliquons Marx. Soyons tous marxistes, révolutionnaires, libertaires d'ailleurs.
Que de gros mots dans une même phrase.
Non, révolutionnaire, on va laisser tomber. Libertaire.
Voilà. Ouais, c'est le but de l'été, lire Capital en entier.
Le Capital. Bon, d'accord, on verra la rentrée.
Je m'étais déjà donné cet objectif avec Proust à La Recherche du Temps Perdu, mais je me suis arrêtée au 3e tome. Je vais essayer avec le Capital, là.
D'accord. Sinon, maintenant, je les deux.
C'est moins long. Tu nous raconteras ça.
Bon, tout ça, c'était pour conseiller plein de petits livres sur le travail, et je crois qu'il est temps aussi d'écouter de la musique, genre du jazz. Si la platine.
En fait, il y avait la soufflerie.
Donc Canon de Bond de Romano, interprété par Romano Sclavis Texier.
Ok. Bon, bah, nous allons maintenant reparler de livres, un grand livre, pas très cher, un livre collectif de plusieurs dessinateurs de... Je ne sais plus, je ne les ai pas comptés. Je sais que c'est initié par 7 jeunes dessinateurs d'Angoulême, mais il y en a pas mal. Alors, au départ, donc, c'est une expo qui s'appelle Jinko, et où on va retrouver la crème des jeunes auteurs de bande dessinée qui vont en fait interpréter chacun à leur manière un problème de pollution. Et de façon muette, comme ça, tout le monde peut comprendre, même les enfants. Voilà.
Et même les étrangers.
Et même les étrangers. Et pour ceux qui n'ont pas la couleur, c'est vraiment très coloré. Ça retapisse l'intérieur de belles couleurs. Et c'est initié donc par 7 jeunes auteurs angoumoisins. C'est édité par Chococrite, qui est une association donc d'Angoulême également, qui édite des recueils de bandes dessinées depuis 7 ans. Voilà. Donc il y a une exposition, et moi, c'est le catalogue que je vous conseille d'acheter. Parce que,
Moi, j'aurais pas dit un catalogue, j'aurais dit un livre.
Enfin, oui, enfin voilà, ça s'appelle le catalogue, mais en fait, c'est un recueil voilà, de bandes dessinées avec les futurs de demain, enfin, même déjà ceux qui sont aujourd'hui, comme Marie de Monti, qui est vraiment, enfin, pour moi, l'héritière. Bon, il est très jeune encore, de Marc Boutavant, mais enfin, qui est aussi talentueuse. Anne Simon, ces deux-là, on les retrouve d'ailleurs chez Misma. Mm-hmm. Voilà. Et bon, chacun à sa manière illustre un problème donc, de pollution. Voilà.
C'est quoi des problèmes de pollution ?
Alors, bah, par exemple, celui de Marie de Monti, j'aime beaucoup, puisque, en fait, s'il y a un trou dans la couche d'ozone, et ben, c'est parce que les vaches pètent.
Ah, ça, on
voilà.
Savait.
Je ne retrouve plus la page.
C'est voilà, pas à cause des voitures, c'est pas à cause de l'industrie, c'est vraiment les vaches.
Et oui, c'est ça, c'est les vaches qui pètent. Donc, c'est pas toujours drôle comme ça, hein, quand même. Mais, en tout cas, c'est ingénieux, puisqu'ils n'ont que 2 pages donc, pour faire passer le message. Et original, et talentueux, et plein de couleurs. Voilà. Et c'est bien pour les enfants aussi. Et puis, on retrouve des auteurs qui vont publier par ailleurs, j'espère, parce qu'on a envie de les voir un peu. Voilà. Donc, ça s'appelle Jinko. C'est les petites histoires pour la nature. Et ça coûte seulement 12 euros. C'est édité par Chococrite.
Et donc, on les trouve dans toutes les librairies.
Oui.
Ça, c'est pratique, alors. D'accord. Alors, est-ce qu'on parle d'un intérieur ? Non, on a dit peut-être plus tard. Est-ce qu'on parlerait plutôt de Valse avec Bachir ?
Allez, allons-y.
Restons dans le domaine graphique et dessiné. Mm. Puisque nous sommes au moins 2 ici à avoir vu Valse avec Bachir, un film de...
Harry Folman.
Qui a été présenté à Cannes il y a quelques temps, quand c'était Cannes, ouais. Et qui sort maintenant sur les écrans, et qui est encore visible, je crois, au théâtre.
Au théâtre, oui, pendant quelques semaines.
Isabelle, c'est toi qui m'entraînes par ce film.
Ouais, c'est un film qui a créé un peu l'événement dans sa forme, déjà, parce que je pense que c'est un peu inédit. Il a été qualifié de documentaire d'animation. Ce qui est, je pense, vraiment une première, même si l'animation a pu être utilisée de temps en temps dans des documentaires. Là, c'est vraiment tout le film qui est un film d'animation, excepté la toute fin. Et qui, donc, est en même temps un documentaire à forte part autobiographique, puisque l'auteur, donc Harry Folman, qui est israélien, y raconte sa perte de mémoire et son retour de mémoire autour des événements du massacre de Sabra et Shatila, donc au Liban en 82. Donc en fait, ça part de ça, c'est le souvenir d'un autre et le rêve d'un autre homme qui lui fait prendre conscience que lui, il n'a pas de souvenir de ce moment-là, qui pourtant a été très important, où il était très jeune, il avait juste 18 ans, je crois, même 17 ans. Où il s'est retrouvé embarqué avec d'autres jeunes hommes de son âge dans cette histoire. Et en fait, il va aller retrouver des personnes qui ont participé à cet événement avec lui et essayer comme ça, petit à petit, de reconstruire ça. Et voilà, c'est vraiment un film très fort, très beau graphiquement. Enfin, moi, je trouve vraiment très intéressant, où on comprend en effet qu'il ait choisi... d'utiliser l'animation aussi, puisque pour lui, bon, c'était un peu exclu de faire une fiction, que la reconstitution lui paraissait très difficile à faire et qu'il voulait sortir un peu d'un documentaire qui aurait pu être classique, qui aurait été seulement fait de témoignages. Donc là, il reconstitue vraiment la guerre, quoi, par le film d'animation, tout en faisant vraiment un travail documentaire très, très important, puisque toutes les personnes qui interviennent, il les a réellement interrogées, il a pris le son lors des interviews, et c'est leur voix qui est reprise dans le film d'animation quand ils interviennent. Donc ça, c'est vraiment, enfin moi je trouve qu'il y a un jeu là-dessus de... Enfin, de distance, de ouais, entre le documentaire et la je sais pas, la restitution d'une parole, qui est très très bien. Il y a des très beaux personnages. Enfin, je sais pas, qui existent vraiment. Et c'est en plus, c'est rare de voir des films d'animation, enfin, qui mettent en scène déjà des humains. Il y a plus d'animaux que d'humains.
Une vérité historique.
Et une vérité historique et des humains adultes. Enfin. Et dans une histoire qui a eu lieu avec un enjeu vraiment, enfin il y a un truc, ouais, un enjeu dramatique assez fort, enfin autour de ce traumatisme, de comment on vit un événement historique, comment on l'oublie, comment il revient à nous, et c'est vraiment, enfin moi je trouve très très réussi quoi.
Ouais, moi je suis tout à fait de ton avis, et je trouve qu'en plus la forme du dessin animé, donc l'animation, se prête particulièrement bien au traitement des souvenirs, parce qu'on est quand même en face de quelqu'un qui essaie de retricoter une histoire. Qui est la sienne, donc il va revivre des choses, et en même temps c'est une espèce de travail d'enquête. Il va rencontrer donc les gens qui étaient avec lui lors du massacre de Sabra et Shatila, donc qui ont servi dans l'armée israélienne, puisque lui est israélien, il a servi dans l'armée. On va rencontrer aussi un psychanalyste, un ami à lui qu'il va voir, parce que donc un ami, d'abord c'est un ami à lui qui lui dit oh là là, tous les jours, toutes les nuits je rêve de 26 chiens qui me harcèlent, c'est lié à la guerre, je sais, mais après je me rappelle plus de rien. Et lui commence par l'engueuler, pourquoi tu me réveilles en pleine nuit pour me raconter ça? Et ensuite se rend compte, voilà, lui n'a aucun souvenir, il sait qu'il était à Sabra et Shatila, mais il ne sait pas où, qu'est-ce qu'il a fait. Évidemment c'est la culpabilité, peut-être que peut-être qu'il a tiré sur des gens, surtout il n'a pas empêché parce que le massacre a eu lieu. Et ensuite donc il va voir ce psy en lui disant voilà, j'aimerais bien savoir ce qui se passe, mais comment faire? Et c'est cet ami psy qui va lui dire bah écoute, tu sais avec qui tu étais, va voir le mec qui est avec toi sur la photo dont tu te rappelles. Et il va le voir, et là il se rend compte aussi que le psy lui dit d'ailleurs les souvenirs c'est très vivant, enfin c'est, ça commence quasiment par ça, tu sais, les souvenirs c'est parfois de la fiction, tu peux pas très bien savoir ce qui s'est passé, mais c'est pas forcément l'important. Voilà, il raconte une expérience sociologique qu'on ne dévoilera pas là, mais qui est assez intéressante. Et donc le dessin animé pour ça c'est génial, parce que déjà lui ce film dans la réalité redessine les personnages, mais qui sont souvent ben, comme s'ils étaient filmés frontalement, c'est-à-dire qu'on est comme dans un documentaire filmé, quelqu'un qu'on voit voilà, en plan de coupe classique avec sa voix, et ensuite, paf, on a des plans où c'est de l'animation, c'est pendant la guerre, c'est tout ceci, cela, et c'est, on sait qu'on est sur un terrain d'enquête, mais lui-même ne sait pas trop si c'est de la fiction ou pas, et donc ça s'enchaîne très bien sans qu'il y ait cette cassure d'image d'archives, paf, ça c'est arrivé, on nage comme lui pour reconstituer une histoire qu'on connaît pas très bien. Et en plus, voilà, il va voir aussi des gens qui ont été blessés, enfin, de l'autre côté. C'est assez, c'est vraiment l'histoire d'une guerre et l'histoire d'un homme, et en plus l'histoire d'un pays qui est encore en guerre à l'heure actuelle.
Oui, qui a connu vraiment des guerres. Oui, c'est ça. En plus, c'est une histoire en même temps, au présent, quoi. Puis il y a tout un aspect aussi. Là, j'ai lu aujourd'hui une interview de lui dans Les Inrecuptibles, où il dit qu'une de ses références, c'était Coppola. Et c'est vrai que quand même, on y pense, quoi, à Apocalypse Now. Parce qu'il y a vraiment des moments aussi d'hallucination. Il y a un truc qui est très important aussi dans le film, c'est la musique. Où, en fait, il y a une présence très forte de la musique de l'époque qui arrive et tout, comme ça, par espèce de... Parfois, de façon très forte. Et qui prend beaucoup de place et qui est vraiment très, très chouette, quoi. Des moments un peu d'hallucination. On ne sait plus trop où on est. Et c'est vraiment très, très bien.
Ouais, beau traitement. Et j'ajoute que le dessin est très beau, c'est vrai, donc il soit assez attentif à ça.
Et c'est, ouais, en plus c'est intéressant aussi, parce que lui il a jamais fait d'animation, quoi. C'est un mec qui a plutôt fait des reportages pour la télé et tout ça, et là c'est vraiment le sujet qui lui a fait penser à utiliser l'animation, et où il se dit finalement qu'il aimerait bien continuer à utiliser cette méthode là que ça permet de faire des choses que le cinéma ne peut pas faire sinon, quoi.
Ouais, pour lire les histoires, et même par rapport aux personnes qui l'interrogent, certaines, à un moment, le mec qu'il va voir qui était avec lui dans le souvenir très flou qu'il a de trois soldats, dont lui se baignant dans Beyrouth, remontant ensuite, en fait, tout part de là, ce souvenir, pour expliquer ce que c'est. Un coucher de soleil orange, trois jeunes gars nus dans la mer qui se lèvent, il y en a un qui a un fusil, il s'habille, il rentre dans la ville qui est Beyrouth, et là se jettent quasiment sur eux des femmes en noir qui ululent, qui, enfin, voilà, des veuves, des mères, des sœurs, enfin des femmes éplorées par un deuil. Et donc on sait que c'est certainement les massacres. Et donc il va voir le type qui l'a reconnu dans son rêve, mais peut-être c'est une hallucination, peut-être un rêve, qui est avec lui. Et le type lui dit, bon, tu peux me dessiner, oui, tu peux me... il est en Hollande. Ouais, tu peux me dessiner, tu peux me montrer, mais ça va, si tu m'avais filmé, bof, quoi.
Mmh, oui, oui, oui. Donc on comprend aussi que ça, oui, que ça peut être une façon de le faire, que, ouais, pour éviter que les gens s'exposent plus, quoi. Mmh. Et oui, il y avait deux, c'est pareil, dans l'article, il y avait, ouais, c'était comparé à deux films. Alors c'est deux grosses références, mais je trouve ça assez juste. Et à la fois Claude Lanzmann par rapport à son travail sur la Shoah, ou dans le rapport de pas vouloir faire un film d'archives, justement, de pas enfin oui, de pas montrer des documents d'époque, mais de voir au moment d'aujourd'hui comment le paysage a encore les traces du passé et comment les gens en parlent. Et l'autre référence, c'était Art Spiegelman par rapport à Mauss aussi, bon, par rapport au fait que lui il a fait une bande dessinée autour de la Shoah. Et je trouve, enfin, c'est les deux, ouais, enfin, disent assez bien, je pense, le projet et le résultat de Valse avec Bachir, qui est, ouais, vraiment à conseiller.
Ouais,
et à les voir.
Les dernières images sont bien dures,
oui,
on peut le
oui.
dire. Voilà, alors si après ça, nous écoutions un petit peu de gens énervés.
Le champ est libre comme l'air, toujours le même calibre, mes chers confrères, dans la main, pour tuer une puis dissuader quelques fils de putain en travers de notre chemin. La coupe est pleine, où on crache dans la soupe et sur les sales groupes, et que quelqu'un se la ramène. J'ai toujours pas retrouvé le sourire, ni ce dance floor de salope, du rap et du R&B non-stop. Ici le style autant de scrupules qu'une maison d'arrêt qui brûle, c'est dire comme ça craint le pire, comme ça sert à rien de nous ralentir. Je peux encore vous surprendre, car aucune stèle sera assez grande pour qu'ils se branlent sur nos séquelles, comme des pucelles ou se rendent complice des parties de baltrap de la police. En plaçant sur peine de tous ses efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrante bavure, invoque le coup du sort, et nous convoque leur état-major. Pendant que la censure peine de tous ses efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrante bavure, invoque le coup du sort, et nous convoque leur état-major. Bref, rien de bien nouveau sous le soleil. Les mêmes vieilles chiennes sur leurs vieilles piles d'oseille. Ces bonnes vieilles lois pour nos bons vieux trois rats. Un extra cette fois, un trophée ces derniers mois. Une portée de gorée s'est coincée entre les mailles de mon filet. J'y ai même trouvé un code pénal à tranche dorée, expédié par voie d'huissier. Avec tous les bravos du 9 place Beauvau. Le pompon, la cerise, je crois à ma plus grosse prise. Ça me changera des frises et de la bouillie pour chat. Concert aux grandes fêtes foraines républicaines. Ça m'inspire l'amour et la joie qui fait défaut à mes rengaines bien trop chargées de haine. Pendant que la censure peine de tous ses efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrante bavure, invoque le coup du sort, et nous convoque leur état-major. Pendant que la censure peine de tous ses efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrante bavure, invoque le coup du sort, et nous convoque leur état-major. Encore du rap de fils d'immigrés étrangers à leur code, pourtant si familiers aux flics et à leur brutale méthode. Au rang des non-alignés, qualifiés d'infâmes, diffamateurs, encore et trop d'honneurs qui nous distinguent des amateurs. C'est la rumeur, quatre têtes à abattre, que les censeurs se rassurent, y'a pas que la mesure qu'on va battre. 2004, plein de haine, même interdit d'antenne, des centaines de détracteurs au cul que mon son préoccupe. Chute ces braises pas éteintes qui crament dans leurs enceintes, ou dans les plaintes de ces fils de timbre, assis au banc des accusés, puisqu'absent au banc des priorités, la parole arrachée par les minorités. Pendant que la censure peine de tous ses efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrante bavure, invoque le coup du sort, et nous convoque leur état-major. Pendant que la censure peine de tous ses efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrante bavure, invoque le coup du sort, et nous convoque leur état-major.
Donc, Port de la rumeur, Port, ça s'écrit P-O-R-C comme le sigle Et ça veut dire pourquoi on resterait calme. Et oui, pourquoi on resterait calme, ça nous ramène au procès de la rumeur contre Nicolas Sarkozy qui dure maintenant depuis 5 ans. Je résume en vitesse. Donc il y a 5 ans, lors de l'apparition du premier album, un petit journal était paru gratuitement avec L'ombre sur la mesure, le titre du premier album, où Amé avait écrit un article qui s'appelait Insécurité sous la plume d'un barbare, où il dénonçait les abus policiers. Et le ministère de l'Intérieur a porté plainte. Il y a eu un procès que le ministère de l'Intérieur a perdu, il y a eu un appel, le ministère a perdu également. Ils se sont pourvus en cassation et là, les deux premiers procès ont été annulés. Et donc là, le 3 juin dernier, il y a eu un quatrième procès à la cour de Versailles et le verdict sera rendu le 23 septembre. Voilà, en espérant que ce soit la fin de leur déboire judiciaire. Et il y aura à ce moment-là d'ailleurs un concert, 23 ou 24 septembre. Voilà.
Concert de la rumeur.
Concert de la rumeur. Hein.
Pourquoi on resterait calme ? C'est vrai ça. D'autres choses, nouveautés vite fait à conseiller avant qu'on ne rende l'antenne pour 2 mois d'été ? Des choses qu'on a aimées, des choses qu'on a lues, des choses qu'on a envie de lire cet été ?
Moi, je peux conseiller un petit polar que je viens de lire qui a aussi un rapport avec la bande dessinée. Ça s'appelle Swap, c'est paru chez Liana Levy. C'est de Jonathan Moore, M-O-O-R-E, pas Alan Moore, Jonathan Moore, voilà. C'est le départ de l'histoire est assez curieux, enfin marrant. C'est un type, une sorte de loser, donc qui vit à New York, qui a un magasin de bande dessinée d'occasion et qui, en fait, bon, il est toujours resté à 14 ans et demi, hein, en gros. Et voilà, il vit seul, un peu. Voilà. Il a un employé qui peut torturer, qui est encore plus bas du cerveau que lui. Et son obsession, c'est de retrouver le numéro 1 du magazine Superman qu'il avait donné étant petit au garçon qui était la tête de turc de l'école. Donc c'était un jour où il a eu pitié de lui, il avait envie du bout de plastique que l'autre promenait autour de la tête et il lui a donné son Superman numéro 1 parce que en fait il avait trouvé ce Superman numéro 1 dans un grenier, puis à l'époque bah il trouve un Superman, les Marvel, tout ça, ça le branchait pas trop, ça le plaisait pas, donc il avait donné ce Superman numéro 1 bien intact,
le genre de geste innocent,
voilà, à ce pauvre bougre qui en avait qu'à faire, mais bon quand même c'était pour lui un geste d'amitié alors qu'il passait son temps à le torturer, à chanter des chansons salaces en passant devant chez sa mère, enfin voilà. Bon, alors son obsession, enfin sa monomanie, c'est de retrouver ce Superman numéro 1 qui aujourd'hui vaut une fortune et qui lui sauverait la vie puisque vraiment il est dans une situation très précaire. Et donc il va se rendre pendant 15 ans à toutes les réunions d'anciens élèves de l'école pour essayer de retrouver ce leader là, ce loser. Et on est donc juste au début là de l'histoire, il va partir donc vers ce village d'enfance et il va retrouver normalement tous ses vieux copains et peut-être Bleeder sera là et il est là. Et donc voilà et après bon ben je sais pas si je vous raconte plus.
Mais non, c'est délire.
Voilà, Swap. Il est là. Voilà, ça s'appelle Swap, SWAP. Swap c'est en fait une onomatopée qu'on trouve en bande dessinée. Swap. Voilà, dans Superman. Donc je vous le conseille.
D'autres conseils ?
Justement, par rapport au polar, moi j'ai lu le dernier. Et je peux en dire 2 mots. Au début du bouquin, ça commence très bien. On se retrouve devant le cimetière de Highgate à Londres et devant la partie la plus ancienne du cimetière. Et devant la grille d'entrée se trouvent 19 chaussures. Et dans ces chaussures, des pieds coupés à la cheville. Voilà. Et donc ça commence comme ça, ça commence très bien. Et savez-vous à qui couper les pieds autrefois pour empêcher les personnes de marcher ?
Les prisonniers,
les voleurs.
Oui, c'est vrai. Il y avait également les voleurs, les esclaves, etc.
Mais hommes politiques inefficaces ? Non.
Les hommes politiques inefficaces peut-être, mais il y avait également les vampires. Voilà, on leur faisait plein de choses, mais on leur faisait aussi ça. Et donc voilà, c'est donc une histoire de vampire. Et donc, ce dernier Vargas, j'ai trouvé qu'il reposait un petit peu sur ses lauriers, sur ses acquis, avec des personnages qui ont gagné une certaine épaisseur au fil des romans, parce que là c'est toujours un peu le même héros qui revient, Adamsberg et ses comparses, mais voilà, et maintenant elle répète un petit peu la vie de chacun des éléments de la brigade, et donc ça tourne un petit peu en rond. Et puis comme les 4-5 derniers romans, on devine qui est le coupable au milieu du bouquin. Voilà, et c'est-à-dire c'est toujours la même technique, on en parle beaucoup au début, puis il est super.
Dis pas trop de trucs, on a presque plus de temps et les gens ils vont.
Oh pardon, maintenant je n'irai pas plus loin, mais par contre j'ai pris un bon moment quand même à le lire, c'était quand même agréable malgré tout, je lirai le prochain. Voilà.
D'accord.
Moi je veux bien reconseiller Les années d'Annie Ernaux, qui est un très beau roman. Et puis aussi deux autres livres dont j'ai parlé pendant l'année, La nuit africaine d'Olive Schreiner aux éditions Phébus, qui est une histoire qui se passe en Afrique du Sud, et aussi le livre dont on a parlé la semaine dernière, Amuleto de Roberto Bolano, qui est vraiment très très bien, qui lui se situe au Mexique. Et lui il est chilien. Voilà.
Et moi, ouais, je conseillerais aussi Roberto Bolano et aussi Gérald Bronner, Comment je suis devenu super-héros, que je crois c'est le meilleur livre que j'ai lu cette année. Un polar qui est aussi une réflexion sur le pouvoir et aussi une espèce de satire sur les super-héros, très très bien faite. Voilà, tout ça est perdu au contrebandier. Je crois qu'on n'a pas le temps de récapituler, surtout si on veut écouter une dernière musique avant de se dire au revoir. Donc je renvoie tous nos chers auditeurs au site onestlapourka.free.fr. Comme ça, ils pourront aussi écouter les anciennes émissions cet été, puisqu'ils s'ennuieront de nous. Et puis, voilà, au revoir tout le monde. Thomas n'est pas venu. Benou n'était pas là. Anthony non plus. Il y avait quand même Isabelle, Emma, Nikki et moi-même. Et on vous dit à la rentrée.
Bonnes vacances. À la rentrée.
Bonnes vacances.
Bonnes vacances.
Love is all, mais oui, ça devait être ça normalement.
Bah, c'est la 17.
Bah oui, c'est ça. Alors, excusez-moi, c'est Hélène à la technique, on est là pour ça, et j'ai complètement raté, on dirait, le
démarrage. En fait, on vous souhaitait beaucoup d'amour. Ah, merci. Ah.
Love is all, nous écoutons Love is all. C'était On est là pour ça, on n'avait pas fait de problème technique. Everybody's got to live together. All the people got to understand. So love your neighbor like you love your brother. Come on and join the band. All you need is love and understanding. Ring the bell and let the people know.
Ah oui, c'était Jacques Higelin, Nina Hagen, Mickey Green, Mathieu Bogarts, Dirk von Lovzvo et Mitz Katz. Voilà, c'était Love Is All, en fait, revisité par Gonzalez pour Arte. Et Gonzalez, on avait beaucoup aimé dans Solo Piano. qu'on avait passé aussi cette année. Voilà, c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il fait un disque, un nouveau genre, un nouveau style. Il est difficile de le suivre un petit peu des fois, ce garçon. Voilà.
C'était, on est là pour ça. On avait juste le temps de redire au revoir avant les informations.
Et voilà, et donc vous souhaitez plein d'amour avec cette chanson.
Et bonnes vacances. Allez, un petit peu encore de Love Isole avant les infos, profitez-en.